Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1996 sous le titre original de Clash of Civilization and the Remaking of World Order, puis traduit en français chez Odile Jacob. Le choc des civilisations est un essai de géopolitique du politologue américain Samuel P. Huntington. Prolongeant un article très discuté paru en 1993 dans Foreign Affairs, l'ouvrage cherche à interpréter l'ordre international né de la disparition du bipolarisme soviéto-américain. Huntington soutient que les rivalités déterminantes ne s'expliquent plus prioritairement par les idéologies ou les intérêts économiques, mais par les identités culturelles à grande échelle. Il appelle « civilisation » ces ensembles historiques, religieux et culturels auxquels les peuples s'identifient. Sa thèse ne décrit pas mécaniquement tous les conflits comme des affrontements culturels, elle propose surtout une grille de lecture de leurs lignes de fracture, de la recomposition des alliances et du recul relatif de l'influence occidentale. Contesté pour ses généralisations, le livre demeure un repère majeur pour comprendre les débats sur l'identité, la mondialisation et les relations internationales. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la civilisation comme niveau central d'identité politique. Le point de départ de Huntington consiste à déplacer l'analyse géopolitique du seul État vers la civilisation. Celle-ci désigne pour lui le plus vaste regroupement culturel auquel des individus peuvent s'identifier avant de se distinguer d'autres ensembles humains. Elle repose à la fois sur des données relativement objectives, langue, histoire, religion, coutumes et institutions, et sur un sentiment subjectif d'appartenance. Cette double définition est importante. Une civilisation n'est ni une race, ni une simple frontière administrative, ni une organisation politique unifiée. Elle peut inclure plusieurs États et contenir de fortes différences internes. Huntington distingue notamment les civilisations occidentales, orthodoxes, musulmanes, hindoues, chinoises, japonaises et latino-américaines, tout en discutant le statut d'une civilisation africaine. Sa cartographie vise à montrer que les catégories héritées de la guerre froide deviennent moins éclairantes lorsque les solidarités idéologiques s'effacent. La question internationale fondamentale ne serait plus seulement « de quel côté êtes-vous ?» mais aussi « qui êtes-vous ?» Cette proposition donne une place décisive aux mémoires collectives et aux références culturelles dans la formation des perceptions de menaces. Elle explique également pourquoi des intérêts matériels comparables ne produisent pas toujours des alliances stables, les gouvernements agissent dans des contextes où l'identité influence la légitimité, les choix diplomatiques et l'opinion publique. Deuxièmement, modernisation sans occidentalisation, la critique d'une culture universelle. Huntington conteste l'idée selon laquelle la diffusion de l'économie de marché, des techniques modernes, de l'anglais ou des institutions démocratiques conduirait nécessairement à l'uniformisation culturelle du monde. Son raisonnement sépare explicitement modernisation et occidentalisation. Des sociétés peuvent industrialiser leur économie, développer l'éducation, renforcer leurs capacités militaires ou adopter certains instruments institutionnels occidentaux sans renoncer à leurs traditions religieuses, à leur histoire ou à leurs priorités politiques. Cette distinction soutient l'un des arguments les plus marquants du livre: l'Occident ne doit pas confondre sa puissance passée avec l'universalité de ses valeurs. Pour Huntington, l'expansion occidentale a effectivement façonné l'ordre mondial moderne, mais son influence relative décline à mesure que d'autres pôles acquièrent ressources, confiance culturelle et autonomie stratégique. Il insiste particulièrement sur la montée de l'Asie orientale et sur le regain religieux et démographique dans une partie du monde musulman. L'enjeu n'est donc pas une opposition simple entre modernité et tradition. Il est de comprendre comment différentes civilisations s'approprient la modernité selon leurs propres références. Cette analyse permet de relativiser les prévisions linéaires de convergence mondiale. Elle comporte toutefois une tension en soulignant les différences durables. Huntington tend parfois à présenter des cultures vastes et hétérogènes comme plus cohérentes qu'elles ne le sont réellement. Troisièmement, État phare, pays déchiré et recomposition des alliances, l'ouvrage ne remplace pas purement et simplement les États par les civilisations. Huntington conserve aux États un rôle central, mais affirme qu'ils évoluent de plus en plus dans des environnements civilisationnels. Les États phares y occupent une fonction particulière, ils disposent d'une influence suffisante pour orienter, sans les contrôler entièrement, les pays proches de leur ère culturelle. Ce modèle cherche à expliquer la formation de cercles de solidarité, l'aide apportée à des groupes apparentés et la difficulté de régler certains conflits sans l'intervention d'autorités reconnues dans chaque ensemble. Huntington introduit aussi la notion de pays déchiré, dont les élites ou la population hésitent entre plusieurs appartenances culturelles et stratégiques. Ces cas révèlent que l'identité nationale n'est pas toujours stable ni unanimement définie. Ils rendent les choix d'alignement particulièrement sensibles. L'intérêt de cette partie réside dans son refus de réduire la politique mondiale à une simple carte de bloc fixe. Les alliances peuvent dépendre du rapport de force, mais elles tirent aussi leur crédibilité de proximité historique et symbolique. En revanche, cette construction soulève une objection majeure des États d'une même civilisation peuvent entretenir des rivalités profondes. Et des coalitions transversales se forment fréquemment autour d'intérêts sécuritaires ou économiques. Le cadre huntingtonien est donc plus utile comme hypothèse sur les affinités et les limites des alliances que comme loi générale. Quatrièmement, les lignes de fracture et le risque de conflit intercivilisationnel, la formule du choc ne signifie pas, chez Huntington, que chaque contact entre civilisations conduit automatiquement à la guerre. Elle désigne plutôt le risque accru de ce conflit le long de lignes de fracture ou des populations. Des États ou des groupes se côtoient avec des identités historiques et religieuses distinctes. Selon lui, après la guerre froide, ces frontières culturelles peuvent devenir des foyers de mobilisation plus puissants que les anciennes oppositions idéologiques. Un conflit local peut alors se prolonger parce que des États ou des opinions publiques extérieures soutiennent les partis qu'ils jugent culturellement apparentés. Huntington parle de dynamique de ralliement entre pays apparentés. Son analyse attire ainsi l'attention sur le rôle des récits identitaires dans l'escalade, la mémoire des guerres. La sacralisation d'un territoire, les symboles religieux ou la peur de l'assimilation peuvent rendre une négociation plus difficile. L'auteur ne néglige pas entièrement la puissance militaire et les intérêts stratégiques. Mais il les inscrit dans une lecture où la culture devient le principal facteur de structuration. C'est précisément le point le plus débattu de sa thèse. De nombreux critiques estiment que les guerres sont rarement réductibles à une cause civilisationnelle et que les élites instrumentalisent souvent la religion ou l'identité afin de poursuivre des objectifs de pouvoir, de territoire ou de ressources. Cette critique n'annule pas l'intérêt du concept, mais impose de l'utiliser avec prudence. En dernier lieu, le pluralisme civilisationnel comme stratégie de coexistence, contrairement à une lecture sommaire qui ferait de l'ouvrage une prophétie guerrière. Huntington formule aussi des recommandations de prudence. Il estime que l'Occident doit abandonner la prétention à incarner une culture universelle, car cette prétention est à ses yeux à la fois contestée, dangereuse et peu réaliste. La coexistence suppose plutôt de reconnaître la pluralité durable des civilisations, de rechercher des éléments communs et de limiter les interventions qui transforment des conflits locaux en affrontements plus larges. Dans cette perspective, les États phares ont une responsabilité de médiation, ils devraient contribuer à contenir les violences impliquant des membres de leur propre sphère culturelle plutôt que les attiser. Cette proposition révèle le double sens du livre. Les différences civilisationnelles constituent une source de tension, mais un ordre conscient de ces différences pourrait aussi empêcher qu'une rivalité ne dégénère en guerre mondiale. L'idée demeure problématique car elle peut figer les individus dans des appartenances collectives et légitimer une diplomatie de sphère d'influence. Elle sous-estime également les acteurs transnationaux, les sociétés civiles et les identités multiples. Pourtant, elle oblige à poser une question concrète de politique internationale, comment défendre des intérêts et des principes sans supposer que toutes les sociétés doivent adopter les mêmes institutions ou la même trajectoire historique. C'est dans cette tension entre réalisme culturel, prévention des conflits et risque d'essentialisation que l'essai conserve sa force de discussion. En conclusion, le choc des civilisations s'adresse avant tout aux lecteurs de géopolitique, de relations internationales, d'histoire des idées et de stratégies qui souhaitent comprendre l'une des grilles d'interprétation les plus influentes et les plus controversées de l'après-guerre froide. Il sera particulièrement utile aux étudiants, journalistes, diplomates ou citoyens désireux d'identifier la place des références culturelles, religieuses et historiques dans les crises internationales. Son bénéfice intellectuel ne consiste pas à fournir une carte définitive du monde, mais à obliger le lecteur à examiner la manière dont les identités collectives façonnent les alliances, les peurs et les discours politiques. Il permet aussi de mettre en question l'idée confortable d'une mondialisation automatiquement homogénéisante. Ce qui distingue Huntington d'autres essais du même genre est l'ampleur de son modèle plutôt que d'expliquer le nouvel ordre mondial par la seule économie, la puissance militaire ou les régimes politiques, il place les civilisations au centre de l'analyse. Cette ambition synthétique rend le livre très lisible et durablement discuté. Elle explique aussi ses limites, les civilisations y paraissent parfois trop homogènes, tandis que les conflits internes, les intérêts matériels et les choix contingents des gouvernements reçoivent une attention insuffisante. Le meilleur usage de l'ouvrage est donc critique et comparatif, lu avec des analyses qui soulignent la diversité interne des sociétés et la pluralité des causes de guerre. Il demeure un outil précieux pour formuler de meilleures questions sur la politique mondiale, plutôt qu'un guide prédictif à appliquer mécaniquement. Si vous souhaitez soutenir Samuel P. Huntington, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.